Écoute, effectivement, on ne devient pas un outil nucléaire en un jour. Je crois que ça fait partie des vagues de fond qui petit à petit t'emportent au cours de ta vie. Et moi, personnellement, je suis reporter, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. J'ai couvert de l'Iran au Yémen, j'ai couvert quasiment toutes les guerres du Proche-Orient. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur les femmes dans la guerre, des femmes ennemies israéliennes et arabes, que j'ai appelé la guerre à deux voies, et qui m'a valu le prix de la paix de l'UNESCO. Si je te dis ça, c'est pas pour me vanter de ce prix, mais c'est pour te dire que les questions de vie, de mort absurdement donnée, inutilement donnée, m'ont toujours révoltée. Donc, le fait de lutter contre le nucléaire et contre la mort du nucléaire, contre les morts du nucléaire, parce qu'il y en a tellement de façons de mourir du nucléaire, allait absolument dans la ligne de mes combats. Et quand on a vu tellement de morts inutiles, de souffrances dans la guerre, comme je l'ai vu, eh bien, tu te révoltes encore plus quand tu vois que dans un pays en paix, on risque par pure bêtise, par pur intérêt financier, parce qu'il ne faut pas rêver, n'est-ce pas? Tout vient de là, de mourir soi aussi, et tes enfants aussi, qui risquent de l'être anormaux, car chacun sait que quand on nous lance la tarte à la crème, comme quoi il y a toujours eu des guerres et qu'il y a toujours eu des dangers, et que, comme disait monsieur, je ne sais qui, l'autre jour à la télévision, moi quand je rentre chez moi dans mon Jura, je risque d'avoir un accident de voiture, c'est d'une mauvaise foi totale parce que jamais un danger n'a été aussi grand. Je te dirais de plus que depuis que nous sommes allés à Würlingen, je ne sais pas si Françoise Schiappa vous en avait parlé, nous avons eu l'honneur d'être invités à Würlingen, qui est donc l'Institut Paul Scherrer, où notre confédération dépense chaque année 100 millions pour faire soi-disant de la recherche pour les énergies alternatives, mais où nous avons découvert qu'elle n'en donnait que 8 millions, que 8% sur les 100 millions. Mais quand on a visité cet endroit et que tout à coup, après qu'on nous a expliqué de long en large et en travers combien nos déchets radioactifs étaient bien enfermés comme des petites mouches dans du béton, et qu'en traversant une cour, tu vois une sorte de garage à bicyclette, de la tôle ondulée ouverte à tous les vents et des fûts là-dessous, empilés, et tu demandes négligemment: mais sont-ce les fûts de haute radioactivité? Oui, ils sont là, stockés, en transit. Eh bien, je dois dire que ça m'a donné un peu le vertige. Et quand j'ai parlé aux physiciens qui nous guidaient et qui étaient censés nous dire, nous chanter la gloire du nucléaire, qu'est-ce qui se passerait si une bombe tombait, ou même un accident d'avion tombait sur cette centrale, il m'a dit effectivement, ce serait l'horreur. Il l'a reconnu lui-même. Mais je m'écarte un peu, mais je veux dire, plus j'ai approfondi le problème, plus j'en étais persuadée. C'est ça qui est vertigineux. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'une arme ou qu'un chauffage, disons, qu'une énergie, quelle qu'elle soit, risque de déformer complètement la génétique de toute une planète. Et moi, je trouve ça absolument vertigineux. Et moi, ce qui me choque aussi comme pacifiste, c'est que je les mets aussi en parallèle. Ce sont deux domaines, le nucléaire et l'armement, qui sont entourés d'un silence, mais d'une hypocrisie monstrueuse. Ils ont ça en commun, tous les deux. Ils se donnent la main, ce sont deux jumeaux, n'est-ce pas? Or, ces messieurs, et quelques dames, hélas, se trompent tellement en croyant quoi? Est-ce qu'ils vont vivre dans une bulle s'il y a une catastrophe? Est-ce qu'ils auront, ils ça seront assis dans une boule sur leur million? Mais quand il n'y aura plus rien à acheter, qu'est-ce qu'ils achèteront? Au milieu d'un désert, je crois qu'il vaut mieux avoir une goutte d'eau qu'un million de dollars. Et je crois que c'est un raisonnement que même un enfant de 10 ans comprendrait. Et moi, ce qui me choque toujours, ce contre quoi j'ai essayé de lutter à propos de l'armement et de la guerre, ce que j'étais démystifiée, eh bien, c'est cette colossale hypocrisie. Parce que, comme dans tous les deux cas, que ce soit la guerre, ou que ce soit le nucléaire, j'entends l'importance de la chose est complètement déformée. Si vous voyez combien, d'où part une guerre, regardez Saddam Hussein, une petite histoire de quelques kilomètres carrés. Et d'où part le raisonnement nucléaire, c'est la même chose, puisque nous savons très bien, je ne veux pas refaire tous les calculs au micro, mais qu'en fait, on nous prône que 40% de notre énergie dépend du nucléaire, or que maintenant, nous l'avons prouvé par des chiffres, c'est un 8%. Donc tout ça, l'armement et le nucléaire vivent dans la plus totale hypocrisie, où on déforme complètement des faits.
Alors, tu fais partie de cette association des femmes contre le nucléaire. Est-ce que tu penses que les femmes ont quelque chose de particulier à dire sur le nucléaire ou sont particulièrement sensibles à ça?
Moi, je crois que, en général, les femmes sont plus sensibles au pacifisme et à l'antinucléaire. Je m'avance peut-être beaucoup, mais il n'y a aucune... Quand vous êtes journaliste et que vous écrivez des livres sur ces thèmes, vous voyez bien qui vous écoute, vous voyez bien qui vous écrit, vous voyez bien qui vous soutient. Eh bien, 99 fois sur 100, ce sont des femmes. Donc, au fond d'elles-mêmes, elles sentent parfaitement bien que c'est elles qui donnent la vie et qu'elles sont flouées quelque part, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et quand j'ai fait cette enquête sur les femmes dans la guerre aussi, c'était bouleversant de voir que même les mères de héros qui brandissaient des pancartes, qu'on utilisait d'une façon abjecte, quand on était avec elles quelques heures, eh bien, elles voyaient bien que derrière la mère du héros, eh bien, il y avait la mère flouée, la mère dont on s'était moqué au fond. Vous êtes en train de vous faire avoir. Vous n'avez pas voix au chapitre. Et on est en train d'empoisonner, sinon vos vies, du moins celles de vos enfants. C'est ça que je leur dis. Faites attention. Votez, allez voter par pitié. Aller voter 3 fois, oui.
Tu penses que les femmes sont plus prêtes à écouter ça, ce message?
Oui, sincèrement, je crois qu'elles sont plus prêtes à écouter ce message. Parce que je suis sûre que les femmes qui écoutent les paroles de paix de mes femmes dans mon livre, elles sont les mêmes qui écoutent aussi les paroles de bon sens et de survie, parce que je crois que les femmes veulent survivre. Et d'ailleurs, dans ces films soviétiques et dans tous ces témoignages qu'on a eus, les hommes glosaient toujours. Et je glose et tu gloses et je reglose et tu me regloses. Et par contre, les femmes parlaient du fond des tripes. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on leur donne si peu la parole entre nous dans ce cher pays. C'est qu'on sait très bien qu'une femme risque de parler avec ses tripes. Et la Suisse est un pays qui a peur de ses propres tripes, qui a peur de ses propres passions. La Suisse est un pays qui a peur de la passion.
Pour en revenir au débat sur le nucléaire, pourtant, on a vu naître un groupe de femmes pour le nucléaire qui nous vantait tous les bénéfices que l'électricité apportait à notre... Comment l'électricité soulage notre travail et que finalement, en dehors de cette fée électricité, on en serait encore à rester... esclaves de notre cuisine, comme l'ont été nos grands-mères.
Bien écoutez, ces femmes pour le nucléaire, figurez-vous que nous les avons rencontrées à Bürelingen, puisque à travers l'association les sociétés féminines de Suisse, c'était elles qui nous avaient invitées. Et alors, nous nous attendions effectivement à trouver une armée, si j'ose dire, de femmes bien informées, avec des arguments massus. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé un groupe de dames qui ne savaient absolument pas de quoi elles parlaient. Et je peux vous dire que lors du colloque, dit débat qui a eu lieu, il n'y a eu aucun débat, puisque je peux vous dire que les seuls arguments pour le nucléaire qui ont été donnés sous forme de phrases extrêmement agressives, puisqu'une dame a dit à Madame Anne Petitpierre, qui était venue donc prouvé par A plus B, elle l'a fait remarquablement, d'une façon éblouissante, qu'on pouvait laisser tomber le nucléaire et en survivant parfaitement bien sur le plan énergétique. Eh bien, cette dame lui a dit, tenez-vous bien, c'est triste à dire, puisque pourtant j'aime les femmes et je suis féministe. Enfin, Madame Petitpierre, vous avez quand même utilisé un micro qui utilise de l'électricité pour nous parler, ce qui était vraiment très, très pauvre.
Je crois savoir que la présidente de ce groupe est liée relativement de près à la CEDRA.
C'est la femme de M. Wissler, exactement, directeur de la CEDRA. Et puis, moi, ce qui nous a beaucoup frappé, nous qui depuis des années luttons contre le nucléaire et qui savons de quoi nous parlons, c'était de voir que, comme par hasard, ces femmes pour le nucléaire sont nées comme ça, comme des champignons au printemps, juste avant les votations. Et moi, je peux vous parier qu'après les votations, elles s'endormiront sous les neiges de l'hiver. Oui, au cours de ce colloque, Madame Vreniche Perry, conseillère nationale, qui était là pour soutenir les troupes des femmes pour le nucléaire, nous a dit des paroles qui sont restées vraiment gravées dans ma mémoire. Madame Vreniche Perry a beaucoup de chance. Elle est la seule sur la planète Terre qui a trouvé moyen, qui a trouvé une solution pour les déchets radioactifs. Elle nous a dit que de toute façon, on avait déjà trouvé toutes les solutions. Et quand on pense qu'il y a des grands savants qui passent des nuits blanches sur ce problème dans le monde entier, moi, je suis très contente pour elle, qu'elle soit seule de son espèce. Mais remarquez qu'elle a quand même reconnu qu'il risquait quand même d'avoir un accident en Suisse parce que l'homme n'est pas parfait. Qui l'eût cru ? Mais elle nous a aussi assuré qu'un Tchernobyl ne pouvait pas arriver en Suisse. Et qu'en ce qui concerne les déchets radioactifs, je voudrais rappeler justement que ce que je trouve aussi scandaleux, c'est qu'on les exporte dans les pays pauvres ou dans les régions pauvres. Et l'autre jour, j'ai vu une de mes amies qui travaille justement avec Nairobi, où il y a le Centre mondial écologique, comme vous le savez, et qui m'a raconté qu'elle avait rencontré à une de ses séances, à Nairobi, un tout petit monsieur, tout noir dans un coin, qui disait rien du tout, et qui, après qu'elle se soit exprimée, est venu vers elle et lui a dit « Écoutez, madame, je viens de la Gambie. » Et figurez-vous qu'il nous est arrivé une histoire incroyable. Un pays d'Europe nous a envoyé en cadeau pour le tiers-monde des briques pour construire nos villages. Et gratuitement, on était tous heureux. Et puis moi, qui m'occupe beaucoup de l'écologie, comme ça, j'ai une sorte de soupçon. Et alors, j'ai mis des compteurs sur ces briques. Elles étaient toutes radioactives. Et nous avons découvert que c'était des briques de la démolition d'une centrale nucléaire qu'on nous avait offerte.
Françoise Chappat, secrétaire générale du VVF Genève. Quels sont les risques liés au nucléaire ?
Alors justement, le principal risque est d'abord que là, pour la première fois au monde, nous sommes dans une situation où les conséquences sont absolument irréversibles. Et je vous rappellerai que le plutonium a une durée de vie de 24 000 ans. D'autres éléments radioactifs ont aussi des durées de vie presque aussi longues, et en tout cas de plusieurs centaines d'années, et qu'un microgramme de plutonium peut donner un cancer.
Et il y a du plutonium dans les centrales suisses ?
Non, il n'y a pas de plutonium dans les centrales suisses, il n'y a du plutonium que dans Superphénix, mais dans les centrales suisses, il y a d'autres éléments radioactifs comme de l'uranium, du césium, etc., dont les durées de vie sont de toute façon de plusieurs centaines, voire milliers d'années.
Mais les électriciens nous affirment et continuent à nous dire qu'il n'y a pas de danger en Suisse, ces radioéléments sont bien confinés, ils resteront dans les centrales, il n'y a pas de risque lié à l'exploitation des centrales en Suisse. Est-ce que vous êtes convaincue ?
Absolument pas. Il est impossible de dire qu'il n'y a pas de risque. On a peut-être une technologie qui est bien faite, ça c'est vrai, mais la technologie pour les centrales nucléaires est pratiquement la même dans le monde entier. Il est évident que dans cette technologie-là, il y a toujours les meilleurs spécialistes, les meilleurs scientifiques, ce sont les meilleurs éléments d'un pays qui travaillent dans ces centrales. Ceci dit, le facteur humain n'est pas, on ne peut pas maîtriser le facteur humain.
Mais il y a aussi le problème du vieillissement de ces centrales, parce qu'elles étaient peut-être très sûres au moment de leur construction. Est-ce qu'on peut affirmer qu'au bout de 20 ans d'utilisation et d'utilisation dangereuse, puisque les matériaux sont soumis eux aussi à la radiation, est-ce qu'on peut être sûr qu'elles continuent à être sûres ?
Alors, bon, de toute façon, il y a quand même des enquêtes de sécurité extrêmement sévères. Donc, il est vrai qu'un certain nombre de réglages sont faits, qu'on change certains éléments dans une centrale absolument régulièrement. Mais on sait qu'une centrale a une durée de vie de 30 à 40 ans. Et il est bien évident que le problème va se poser du démantèlement d'ici quelques années.
Parce que, justement, on parle des centrales existantes, mais qu'est-ce qu'on va faire des centrales au moment où elles ne seront plus en fonction ? Parce qu'on ne peut pas vider le cœur d'une centrale.
Non, justement, les centrales donc resteront sur leur site, elles vont être démantelées sur leur site et le problème va être justement de savoir ce qu'on fait des éléments radioactifs qui sont à l'intérieur. Vraisemblablement, on ne les retraitera pas, on les laissera en place.
C'est-à-dire que peu à peu, la Suisse se couvrirait de sarcophages, de vieilles centrales ?
Absolument, d'autant plus que la Suisse, qui actuellement fait retraiter ses déchets radioactifs à La Hague, en France, on sait que ces déchets sont retraités là-bas sur place, mais que dans le contrat de La Hague, La Hague n'entend pas garder ces déchets radioactifs et qu'elle va les retourner à la Suisse d'ici quelques années.
Donc il y a le problème des déchets. oui. parce que ces centrales fabriquent des déchets, dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui.
Oui, j'ai assisté à un colloque au mois de juin, justement, sur la gestion des déchets radioactifs, et il a été clairement démontré dans ce colloque, auquel assistait d'ailleurs, entre autres, je ne sais plus exactement son titre, si c'était le directeur ou un secrétaire général de la Hague, donc de l'usine de retraitement des déchets en France. Il y avait aussi un représentant de la CEDRA, M. Isler, le directeur, et toutes ces personnalités nous ont fait voir les moyens techniques à leur disposition actuellement, les moyens qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour ces déchets. Mais en ce qui concerne les déchets moyennement radioactifs et les déchets hautement radioactifs, aucune solution n'a été trouvée. Ceci est ressorti très clairement de ce colloque, puisqu'on ne peut pas faire d'hypothèse géologique, puisqu'on sait qu'on va mettre ces déchets dans des formations géologiques et qu'il est impossible de faire des prévisions pour des milliers d'années. On nous a simplement rappelé qu'il y a seulement 7000 ans, on traversait la Manche à pied, il n'y avait pas d'eau. Alors pour le moment, une grande partie des déchets est stockée à Vuranlingen, à l'Institut Paul Scherrer. D'ailleurs, je les ai vus récemment lors d'une visite. Ce sont des bidons empilés sous un hangar à vélo, et là sont les déchets radioactifs.
Alors, on peut se dire, d'accord, c'est nos centrales sont les plus belles, les plus sûres, nos gens sont les plus qualifiés, mais il y a eu quand même quelques incidents, Mühleberg, Lucens, qui a quand même dû s'arrêter très vite, d'autres incidents, et chaque fois, il y a eu des fuites de radioactivité. Ce n'est pas été le gros nuage, mais il y a eu quand même des fuites. Est-ce que ces petites doses peuvent aussi représenter un risque?
Oui, bien sûr. Toute dose de radioactivité est une overdose, et nous avons eu récemment des spécialistes qui sont venus à Genève, en particulier Rosalie Bertel, qui a fait une étude extrêmement intéressante sur les doses de radioactivité. Et justement, c'est là que les gens doivent faire attention. Et c'est maintenant ce que l'on peut tirer des conséquences de Tchernobyl. En effet, toute dose de radioactivité est absolument insupportable et inacceptable. C'est évident qu'en matière de radioactivité, il faut faire extrêmement attention. Que actuellement, il est vrai qu'on a un certain nombre de centrales, 450 actuellement dans le monde. 55 de ces centrales sont en France, la plupart sont tout de même en Europe. Mais il est bien évident que ces centrales deviennent un objet particulièrement en temps de guerre. Oui, en temps de guerre, je veux dire, ces centrales peuvent devenir extrêmement dangereuses puisqu'on n'est pas à l'abri d'une manipulation d'un fou.
Est-ce que, d'après vous, si le oui gagne le 23 septembre, est-ce que ça pourrait avoir un effet sur les autres pays du monde? Est-ce que le fait que la Suisse décide aussi de vivre sans le nucléaire pourrait avoir un impact sur les consciences mondiales et sur les choix mondiaux?
Oui, très certainement, puisque, comme vous le savez, les Italiens, dans un référendum, ont demandé d'arrêter les centrales nucléaires, mais que les Italiens sont encore pris dans Superphénix. Et donc, les Italiens, pour eux, ça leur donnerait l'occasion de demander à leur gouvernement de retirer toutes les parts de Superphénix et donc d'arrêter définitivement le nucléaire en Italie. En ce qui concerne l'Allemagne, Kalkar est prêt, mais n'est pas mis en route. Et il est bien évident que si la Suisse venait s'ajouter à l'opinion allemande, on verrait qu'au niveau européen, il n'y a plus beaucoup de possibilités de faire des centrales. Il faut savoir qu'à part la Grande-Bretagne, évidemment, et la France, vous savez qu'actuellement, il y a des projets de 4 centrales à Golfech, dans les Pyrénées, près de Toulouse. Là, il y a une énorme... la population s'est soulevée. Malheureusement, ces centrales vont être mises en service. Et la France a encore un autre projet de centrale tout près de la Vienne, à Civaux. Et là, 4 tranches vont être construites. Mais là, il s'agira de centrales normales, pas de surgénérateurs, évidemment.
Alors, je suis ici avec plusieurs enfants. Et la première chose que je vais leur demander, c'est leur âge.
Moi, j'ai 13 ans et demi.
Moi, j'ai 11 ans.
Moi aussi.
Moi, j'ai 9 ans.
10 ans et demi.
Alors, vous savez peut-être que bientôt, on va voter en Suisse pour savoir s'il faut, oui ou non, sortir du nucléaire. Alors, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important? Ça veut dire quoi pour vous, le nucléaire?
Bah, pour moi, ça veut dire Tchernobyl, surtout. Enfin, ça veut dire Malville, Tchernobyl, fuite.
Moi, ça veut dire le danger.
Moi aussi, le danger et puis les trucs pas bien.
Moi, le danger et les centrales nucléaires.
Moi aussi.
Quand tu dis danger, alors toi, par exemple, c'est toi qui as dit le danger. Qu'est-ce que c'est, quel danger c'est? Tu connais les dangers qui sont liés au nucléaire?
Ben, si ça explose, ben, on est fichu.
Ouais.
Quels sont les dangers?
La même chose qu'elle.
Donc tu penses que ça risque d'exploser et que si ça explose, on est fichu comment?
Ben, on est mort.
Mais moi, je pense que surtout, on meurt pas tout de suite. Peu à peu, on commence à... Il y a des enfants qui naissent avec la tête à la place des jambes ou je sais pas quoi. Et puis, peu à peu, tout le monde meurt et puis les plantes, tout meurt. Ça fait une espèce de désert. Un désert froid avec du brouillard parce qu'on est à Genève.
Alors toi, vous avez surtout peur d'une explosion?
Ben, ouais. Et puis... puis, surtout parce que Malville elle est tout près et puis il y a eu beaucoup de fuites. Enfin, il n'y a pas eu de fuite, mais elle n'est pas très très bien construite parce qu'il y a toujours des problèmes.
Puis moi j'ai peur aussi des déchets parce que les déchets on ne sait pas quoi en faire. C'est comme la patate chaude, personne ne la veut. Et puis on les envoie au tiers-monde, n'importe où. Ou sinon, les enfants dans les petits villages à la campagne, ils sont pas très contents, les gens. Et puis, ça fait des déchets. Le problème, c'est que toi, Léa, tu disais sur Malville. Le problème, c'est que Malville, on peut pas voter parce que c'est en France. Et puis, pour le moment, ils ont pas fait de votation.
Puis, toi, tu penses souvent aux centrales nucléaires. C'est quelque chose qui te préoccupe?
Ouais.
T'en rêves parfois la nuit?
Non.
Moi, souvent. Mais je pense plutôt que c'est marrant.
Ah oui? Ça veut dire quoi, c'est marrant?
Ben, on est sous la terre, puis il y a des bulles d'air, et puis on se marre parce qu'il n'y a pas d'école.
Moi, quand j'habitais dans un autre pays, très loin d'ici, et ben, au Nicaragua, et ben, une fois, quand ma mère elle avait dit que tel jour on revenait en Suisse, et ben, moi, j'avais dit que je voulais... En premier, j'avais dit que je voulais revenir parce qu'il y avait tous mes copains. Et puis après, je disais, je sais pas, en fait, j'ai très envie. Bon, là-bas, il y a la guerre, mais je me disais que je préférais la guerre. Parce qu'il y avait une centrale nucléaire qui explosait, c'était pire. Et puis, j'avais pas envie de voir ça, quoi, d'être enterré sous la terre jusqu'à crever de faim ou de soif. Que je préférais qu'il y ait une guerre avec les Américains ou n'importe quoi. J'avais la trouille.
Tu penses parfois aux centrales nucléaires?
Pas souvent.
Mais quand tu penses que c'est dangereux ou pas dangereux?
C'est très dangereux.
Tu trouves qu'on devrait les arrêter ou qu'on peut continuer?
Qu'on devrait les arrêter.
Non, parce qu'ils sont bêtes.
Comment ça se fait qu'ils sont bêtes?
Mais parce que si ça explose, eux aussi ils meurent.
Quel conseil vous donneriez aux adultes qui vont voter?
De voter oui à la sortie du nucléaire parce que c'est mieux pour eux et puis pas seulement pour eux, pour tout le monde.
Ben qu'il faut voter oui à la de sortir du nucléaire parce que c'est pas seulement notre avenir, c'est aussi eux maintenant parce que ça peut tout de suite s'arriver maintenant que Malville explose, c'est pas seulement dans longtemps.
Moi, je pense qu'il faut voter oui, pas seulement oui au nucléaire, mais aussi oui à qu'on arrête le nucléaire. Mais il faut aussi penser oui à tous, pas seulement les centrales nucléaires, parce qu'il y a aussi les armes chimiques et tout ça. Et tout ça, ça promet pas grand-chose. Même les armes en général, ça promet pas grand-chose. Et puis oui au nucléaire, et puis surtout qu'il y a des gens un peu qui disent des mensonges, quoi, qui, par exemple, certains scientifiques qui disent un peu qu'il n'y a pas de problème, c'est des risques, c'est tout le monde est parano sur les centrales nucléaires, il peut rien arriver. Le jour où ils explosent, on se reverra dans l'abri, s'il y en a.
Moi, je trouve qu'il faudrait voter oui, parce qu'il y a déjà eu Tchernobyl et puis ça suffit.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent si on sort du nucléaire, il n'y aura plus assez d'électricité et on vivra moins bien.
Alors vous, est-ce que vous êtes prêt à remettre en question vos cassettophones, vos tourne-disques, qu'est-ce que vous avez encore, vos lumières, tout cela, tous ces appareils électriques avec lesquels vous vivez?
Non, parce que ça marchera quand même. C'est pas avec une centrale nucléaire que... Mais et puis, il y a aussi avec le soleil, on peut.
Moi, je pense qu'on peut, on peut essayer autre chose que les centrales nucléaires. Il y a plein d'autres moyens de pouvoir faire justement nos machins.
Mais on peut aussi faire dans les rôles avec le courant, au lieu de faire comme des barrages.
Moi, je pense qu'il faut chercher toutes sortes d'autres énergies. Par exemple, il y avait une idée pour prendre tous les pronucléaires, eux qui aiment beaucoup l'énergie et tout ça, tous les parties pronucléaires. On pourrait leur fabriquer des vélos avec des dynamos et puis ils pourraient pédaler, comme ça ils seraient contents. Ils pourraient allumer la radio, tout ce qu'ils voudraient. Regarder la télévision 24 heures sur 24 si ça leur chante, seulement qu'il faudrait pédaler.
Donc toi, ça veut dire que tu serais d'accord de vivre avec un petit peu moins de confort, mais aussi moins de pollution?
Ouais, moi je serais d'accord parce que pour le moment, c'est le confort et la pollution, mais peut-être dans quelques années, ça sera que la pollution. Parce qu'une fois que tu es dans un abri anti-atomique, le confort, bon, on a peut-être la télé, mais c'est tout.